VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous, Jean-Roger Billon, il est 13h à Bujumbura. Les Burundais ont largement approuvé par référendum une réforme de la Constitution qui peut permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034, selon les résultats provisoires annoncés hier par la Commission électorale. Le oui en faveur de cette révision a obtenu 73,2% des voix contre 19,3% pour le non. Et 3,3% à l'abstention. Léonce Nguenda Kumana, président du Front pour la démocratie au Burundi, annonce que l'opposition ne baissera pas les bras.
Nous allons nous concerter au niveau de l'opposition et je suis sûr et certain qu'il y a d'autres forces qui ne s'expriment pas, mais qui sont en faveur du maintien de l'accord d'Arusha et de la Constitution comme pierre angulaire de l'unité et de la cohésion du peuple burundais, de la démocratie et de la bonne gouvernance dans ce pays. Nous allons poursuivre le combat jusqu'au rétablissement d'une constitution conforme à l'accord d'Arusha.
Léonce Nguenda Kumana, président du Front pour la démocratie au Burundi. Congo-Brazzaville, les avocats français du général et opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko, récemment condamné à 20 ans de prison, ont demandé aujourd'hui au Fonds monétaire international que l'accord récemment conclu avec le Congo soit subordonné à la cessation de la répression des opposants politiques dans ce pays. Les avocats français Jessica Finel et Étienne Arnaud dénoncent notamment un procès purement politique marqué par l'ingérence de l'exécutif et le mépris du droit au procès équitable et dont l'objectif est selon eux la neutralisation politique d'un opposant particulièrement gênant pour le pouvoir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu hier une réunion sur la situation en République démocratique du Congo. Les 15 ont demandé aux autorités de Kinshasa de lever l'interdiction de manifester et d'appliquer immédiatement et pleinement des mesures de confiance dont l'accès à l'espace public. Le point avec Irénée Hermanoumbo.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait déjà réclamé à Kinshasa de lever cette interdiction. Les membres du Conseil de sécurité ont aussi souligné la nécessité de faire tout ce qui est possible pour s'assurer que les élections du 23 décembre soient organisées dans les conditions de transparence, de crédibilité, d'inclusivité et de sécurité, rappelant l'importance de prendre des mesures d'urgence pour restaurer la confiance entre les acteurs du processus électoral. Les 15 encouragent toutes les parties congolaises à appliquer le calendrier électoral. Le deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila a pris fin le 20 décembre 2016, la Constitution lui interdit de se représenter. L'opposition reproche à M. Kabila son silence sur ses intentions, ce qui suscite moult réactions et inquiétudes à la fois dans le pays et dans le monde.
RDC toujours avec la crise de l'Ebola. L'OMS a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique. La campagne a démarré hier à Mbandaka et va s'étendre à Bikoro le 26 mai. Oli Oulonga, ministre congolais de la Santé, a donné des assurances sur l'efficacité du vaccin.
C'est un vaccin qui est au stade 3B des essais cliniques. Vaccin 3B, ça veut dire que c'est un vaccin qui a démontré son efficacité. Donc l'efficacité ne doit plus être prouvée. Toutes les personnes qui ont été vaccinées en période d'incubation ne développent pas la maladie. Et donc 3B, c'est un vaccin dont l'efficacité est prouvée, mais qui est en attente d'autorisation de commercialisation.
Oli Oulonga, ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. La Guinée a un nouveau premier ministre. Il s'agit d'Ibrahima Kassori Fofana, ancien ministre d'État à la présidence. Il a été nommé hier par le président Alpha Condé. Le portrait du nouveau premier ministre guinéen avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
Le nouveau premier ministre semble avoir le secret de la présidence de la République. Certains le qualifient de super ministre. L'homme était, dit-on, le chouchou du général Ansana Kanté, dont il fut le ministre du budget, ensuite celui de l'économie et des finances. Donkas, comme l'appellent ses proches, est un économiste qui s'intéresse à la politique après un long séjour aux États-Unis. Il perd dès le premier tour de la présidentielle de 2010 avant de soutenir le candidat Alpha Condé face à Sélou d'Alain Diallo au second tour. L'une des actualités d'Ibrahima Kassori Fofana est la fusion de son parti avec le RPG arc-en-ciel parti au pouvoir. Et pourtant, l'homme fut amer envers le pouvoir en place il y a quelques années. Certains observateurs le considéraient comme celui qui a obtenu la plus petite part du gâteau. En février 2016, il signe son retour en tant que ministre d'État à la présidence chargée des questions d'investissement et du partenariat public-privé. Il voyage beaucoup avec le président Condé. Kassouri défend l'homme qu'il critiquait avant, mais le premier ministre guinéen, c'est aussi la promotion des jeunes. Le plus jeune député à l'Assemblée nationale de Guinée vient de son parti. Docteur Ibrahima Kassouri Fofana doit former un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
L'armée égyptienne a intensifié les démolitions d'habitations, locaux commerciaux et fermes dans la région du Sinaï depuis le lancement en février d'une vaste campagne militaire contre des djihadistes armés, a affirmé aujourd'hui Human Rights Watch. Human Rights Watch dénonce des démolitions illégales qui, selon elle, ont parfois eu lieu dans le cadre de représailles contre des individus suspectés de terrorisme ainsi que des dissidents politiques et leurs proches.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Chine et les États-Unis sont parvenus à un accord de principe pour réduire le déficit commercial américain. Washington et Pékin ont suspendu l'augmentation de leurs droits de douane respectifs. Cela éloigne-t-il le spectre d'une guerre commerciale entre les deux pays? Jacques Aristide a posé la question à Léonard Wanchikon, professeur d'économie et de sciences politiques à l'Université Princeton, ici même aux États-Unis.
Oui, je crois. C'est clair que c'était destructif, cette guerre-là. L'accord, c'est une façon de sauver la face, donc pour ne pas créer une situation encore pire. Donc ça éloigne les choses. Bon, maintenant, il faut voir s'il n'y a pas de résultats concrets par la suite, surtout dans la diminution du déficit, si l'administration Trump va revenir à la charge. Mais en tout cas, au moins pour l'instant, ça éloigne le spectre.
Justement, le président Trump a régulièrement dénoncé le déficit des États-Unis avec la Chine. Cet accord va-t-il pouvoir rapidement changer cet état des choses entre les deux premières puissances économiques de la planète?
Oui, de façon marginale. Parce que déjà, même après qu'il ait annoncé et a donné un chiffre de 200 milliards de dollars, les Chinois ont répliqué en disant qu'ils ne sont pas entendus sur un chiffre. Que la réduction de 200 milliards, c'est totalement exagéré. Donc, c'est clair qu'il y aura une diminution, mais ce ne sera pas aussi substantiel que cela s'annonçait. Maintenant, il faut profiter pour dire que le déficit n'est pas toujours une mauvaise chose. Par exemple, sous l'administration Ford, dans les années 70, l'Amérique était en récession et pourtant le déficit était favorable. Alors que pendant, disons, le boom économique, sous Clinton par exemple, il y avait un déficit. Il faut aussi dire que le déficit pour les États-Unis, c'est au niveau des produits manufacturiers. Alors que dans le domaine de la technologie, des services, il y a plutôt un surplus. Donc, il faut nuancer un peu les choses à ce niveau-là. Les États-Unis ne sont pas aussi en mauvaise position que cela. Ce qui est clair, il y aura quelque chose dans le court terme, mais je ne pense pas que ça va vraiment changer la donne, quoi. Parce que l'économie des États-Unis, c'est beaucoup plus une économie de technologie et de services, alors que celle de la Chine reste une économie de manufacture.
À l'approche des élections de mi-mandat ici aux États-Unis, ces annonces vont-elles aider l'administration Trump, du moins les candidats républicains?
Bon, c'est au moins ce que l'administration Trump espère, parce que en fait, ces mesures-là sont essentiellement politiques. Hein. C'est-à-dire, c'est pour donner l'impression que, voilà, ils sont en train de se battre pour les intérêts communs des États-Unis, également pour les industries des régions du Midwest, surtout les régions du Midwest, qui détiennent la clé des élections de mi-term de novembre prochain. Maintenant, est-ce que ça va vraiment aider? Ça dépend, parce qu'il faudrait que les gens puissent vraiment avoir des résultats concrets, que les industries reviennent, il y a des investissements, il y a de l'emploi, pour que les gens se disent, voilà, c'est quelque chose qui vraiment va apporter un meilleur bien-être sur le plan économique et tourner. Maintenant, les scandales à répétition, je ne sais pas si cela va ne pas également nuire aux chances du Parti républicain. Ce n'est pas très sûr que cela puisse aider les candidats républicains. Il faut des résultats concrets. Maintenant, il faut également que les scandales ne pèsent pas très lourd sur les élections.
Le politologue et économiste Leonard Wanchikon, joint à l'Université Princeton dans le New Jersey. Le président américain Donald Trump reçoit aujourd'hui son homologue sud-coréen Moon Jae-in pour évoquer son sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, sur lequel flotte désormais un parfum d'incertitude. Monsieur Trump et Moon, qui ont échangé par téléphone au cours du week-end, se retrouveront en milieu de journée dans le bureau ovale. Au cœur des débats, la question de dénucléarisation de la péninsule coréenne que Washington veut complète, vérifiable et irréversible, et sur laquelle le Nord n'a pas véritablement dévoiler son jeu. Et puis les États-Unis ont infligé lundi de nouvelles sanctions financières au Venezuela au lendemain de la réélection contestée du président socialiste Nicolas Maduro jusqu'en 2025 qui renforce l'isolement international de ce pays en crise. Lors d'un scrutin critiqué par la communauté internationale et boycotté par l'opposition qui dénonçait une supercherie, M. Maduro, âgé de 55 ans, a obtenu 68% des voix contre 21,2% à son principal adversaire, Henri Falcon, 56 ans. Jean-Roger Billon, le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisca.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.